Chapitre 94. Représentation au bénéfice de la signora Rosena Engel. Le mardi gras de l'année 1827, vers 6 heures du soir, la ville de Vienne présentait un aspect inaccoutumé. Un étranger, en voyant la foule qui se pressait dans ses rues, eût été bien embarrassé de dire à quelle fin la population sortait si précipitamment du Stubentor, de Leopoldstadt, de Stottentor et de Mariahilf, en un mot de tous les faubourgs de la ville, et convergeait, pour ainsi dire, des quatre points cardinaux vers un même centre qui semblait être la place du palais. Et pourtant ce n'était point vers le palais que se dirigeait cette foule. Et si 1000 équipages aux armes de toutes les grandes maisons d'Allemagne stationnaient dans les rues avoisinant le palais impérial, ce n'était ni pour la fête de l'empereur, ni pour un mariage, ni pour une naissance, ni pour une mort, ni pour un deuil, ni pour une défaite, ni pour une victoire, que la ville était en rumeur. Non, toute cette foule se rendait simplement au théâtre impérial, où la célèbre danseuse Rosena Engel donnait, par extraordinaire, sa représentation à bénéfice, le théâtre de la Porte de Carinthie étant alors en réparation. Or, la réputation européenne de beauté, de vertu, de talent de la célèbre danseuse justifiait l'empressement de la population viennoise, d'autant plus qu'on disait vaguement que cette représentation était la dernière que donnerait Rosena dans la capitale de l'Autriche, attendu qu'elle se disposait à partir pour la Russie, qui, dès cette époque, commençait à enlever à l'Europe occidentale ses meilleurs artistes. Quelques-uns soutenaient même qu'elle se retirait sérieusement et définitivement du théâtre, si sérieusement qu'elle était sur le point d'épouser un prince de Hesse. D'autres, enfin, mais c'était le plus petit nombre, il faut le dire, affirmaient qu'elle allait entrer dans un couvent. Il y avait donc 1000 raisons qui expliquaient l'empressement de cette foule, et la preuve, c'est qu'elle accourait du pas dont on va voir un spectacle qu'on ne reverra plus jamais. Toutefois, elle la courait vainement. Depuis 8 jours, la salle entière était louée, et la salle eût pu contenir 30 000 personnes de plus qu'elle eût été louée de même. Le désappointement fut donc grand pour ceux qui, venus en toilette et sans avoir dîné, de Meitling, de Hitzing, de Baumgarten, de Brickidenau, de Statio et de tout le pays à 5 lieues à la ronde, trouvèrent l'entrée interdite à quiconque n'avait pas sa place louée d'avance. Ce fut un hurrah de dépit, d'indignation et de colère qui, parti de la place de la parade, retentit jusqu'au Prater, lorsque se répandit cette nouvelle que la salle était complètement louée, et nul doute que la foule furibonde ne se fût livrée à quelques bruyantes représailles si les équipages de la cour, venant tout à coup à passer et à s'arrêter devant le théâtre, n'eussent, comme une digue, fait rentrer cette marée dans son lit. La foule, nous parlons de la foule autrichienne surtout, la foule qui n'a jamais de rancune mais qui toujours a besoin de crier, se dédommagea des malédictions que l'empêchait de pousser la présence de la famille impériale en criant « Vive l'empereur !» Et comme Ruy Blas de pittoresque et poétique mémoire se contenta pour tout spectacle de regarder descendre des équipages après sa majesté toutes les princesses, archiduchesses et comtesses de la cour. Bien que ce spectacle soit sans doute fort intéressant, nous préférons aller attendre l'arrivée des illustres personnages qui en font l'objet, commodément assis dans une salle du théâtre, où notre titre d'auteur dramatique que nous déclinons au contrôle nous donne le droit d'entrer librement et à la porte duquel un immense bassin d'argent reçoit les offrandes destinées par ce public d'élite à la bénéficiaire. La salle du théâtre impérial de Vienne est, dans les temps ordinaires, médiocrement élégante, mais parée comme elle l'était ce soir-là, elle offrait un coup d'œil vraiment féerique. À la voir dans son ensemble, on eût dit l'intérieur d'un palais arabe où chatoyaient, étincelaient, chantaient, respiraient les diamants, les perles, les dentelles des femmes et des fleurs. De quelque côté que l'on tourna les yeux, on n'apercevait que blancs visages et fraîches épaules, au milieu desquelles ne faisait tache ni la figure morose, ni le vêtement sombre de l'homme. C'étaient des masses de fleurs qui s'épanouissaient, sans que, par aucun endroit, perçât le tronc noir de l'arbre, et il semblait que quelque divinité reproductrice eût été chargée de rassembler là tout ce qu'il y avait de beau dans le vieux monde, afin d'en composer un nouveau. Dans la loge impériale, placée à l'avant-scène de droite et formée de la réunion de trois loges qui se séparent ou se confondent à volonté, étaient d'abord 10 femmes, toutes jeunes, toutes belles, toutes blondes, toutes vêtues uniformément de robes de dentelle, la poitrine et la tête couvertes de fleurs, entre lesquelles, comme des gouttes de rosée, scintillaient des diamants. 10 femmes, ou plutôt 10 jeunes filles, car la plus âgée n'avait pas 25 ans, 10 jeunes filles qu'on eût prises pour 10 sœurs, tant elles se ressemblaient en grâce, en jeunesse, en beauté, tant elles figuraient les 10 premières journées du mois de mai. En face de la loge impériale, c'est-à-dire dans l'avant-scène de gauche, comme dans une seconde corbeille destinée à faire pendant à la première, s'étageaient les 7 fleurs fraîchement écloses de la nouvelle branche de Bavière, les princesses Joséphine, Jenny, Amélie, Élisabeth, Frédéric, Louise et Marie. Les loges attenantes à la loge impériale d'Autriche et à la loge royale de Bavière semblaient une forêt héraldique où s'entrecroisaient les rameaux généalogiques des arbres princiers de toutes les Hesse, Hesse Darmstadt, Hesse Hombourg, Hesse Rheinfeld, Hesse Rothenburg, Hesse Kassel, Hesse Kreuzberg, Hesse Philippsthal, Hesse Bachfeld. Les princesses de Nina, de Hohenlohe, Wilhelmine de Bade, et les petites princesses Berthe et Amélie, imperceptibles boutons de ce riche bouquet de fleurs. Puis venaient les loges des maisons de Wittenberg, de Stuttgart, de Neustadt, de Montbéliard, de Saxe, de Brandebourg, de Bade, de Brunswick, de Mecklembourg, de Schwerin, d'Anhalt. Les princesses Marianne et Henriette, et la petite princesse Thérèse, du rameau royal de Nassau. Mais ce qui attirait particulièrement l'attention des spectateurs, ce n'était ni la loge impériale d'Autriche, ni la loge royale de Bavière, ni toutes ces autres loges déployant au-dessus du parterre le blason vivant de l'Allemagne, ce n'était ni les aigrettes de diamants qui envoyaient leurs rayons, ni les couronnes de fleurs qui envoyaient leurs parfums, ni les lèvres roses doublées d'émail qui envoyaient leurs sourires. Non. Ce qui attirait tous les regards, ce qui éveillait un sentiment d'admiration, presque d'enthousiasme, ce qui, enfin, comme nous l'avons dit tout à l'heure, donnait à cette salle l'aspect d'un palais d'Orient et eût pu faire croire à un rêve des 1001 nuits, c'était les étranges et beaux personnages qui occupaient la loge de face, d'habitude destinée aux aides de camp de l'empereur et correspondant à celle qui chez nous tient le milieu de la galerie. Qu'on imagine en effet l'éventail à la main, vêtu de cachemire blanc tramé de perles et d'or, le cou enveloppé d'une écharpe de gaze où, comme scintillent les étoiles à travers un nuage, scintillait de splendides pierreries, la tête couverte d'un turban de brocart d'où s'échappaient les plumes d'émeraude d'un paon fixé au-dessus du front par un diamant gros comme un œuf de colombe, qu'on imagine un bel Indien de 45 à 48 ans, aux moustaches et à la barbe parfaitement noires, qu'à la fierté de ses yeux, on eût pris pour un de ces rajas indépendants du Bokilkund ou du Budelkund, et à la richesse de ses vêtements pour le génie des mines de diamants de Pana. Autour de lui, puisque nous sommes en face d'un tableau de Delhi ou de Lahore, qu'on nous permette d'employer une comparaison indienne, autour de lui, comme des étoiles autour de la lune, 4 jeunes filles, aux paupières noircies, aux joues safranées, aux yeux étincelants sous la lumière des 1000 bougies de la salle, comme au milieu des ténèbres les yeux des animaux de la nuit, 4 jeunes indiennes, dont l'aînée n'avait pas 15 ans, enveloppées de gaze et vêtues de cachemire blanc de Boukhara. Derrière le Raja, c'était le titre que l'on donnait à l'étranger, 6 jeunes Indiens, vêtus de robes de soie brochée, vert, bleu et orange, de ces tons vifs et chauds nuancés par le soleil lui-même sur cette gigantesque palette de l'Inde où Véronèse semble avoir trempé son pinceau. Enfin, tout au fond de l'immense loge, dans une espèce de salon de service, se tenant debout, immobile, 8 valets, à grande barbe, en longue robe de percale blanche, en turban d'or et d'écarlate. L'un d'eux, qui occupait près du Raja l'emploi de héros, était le Tchouparassi, ainsi appelé de la longue écharpe rouge qu'il portait de l'épaule droite au côté gauche, et à laquelle pendait une grande plaque d'or, où étaient tracés en langue persane les noms, titres et qualités du maître. Les autres étaient des Harkara de Delhi, un Tamoul de Madras et un Pundit de Bénarès, titres qui correspondent chez nous à ceux de chambellan et de janissaire. Au milieu de cette salle, où la blancheur des dentelles et des robes rayonnait aux lumières comme la neige au soleil, cette loge indienne, éclatante, colorée, ressemblait à une verdoyante oasis assise sur un des plateaux neigeux de l'Himalaya. Et enfermant sous les rayons qu'elle projetait leurs yeux éblouis, les spectateurs voyaient en imagination se dérouler devant eux comme un panorama de toutes ces villes de l'Inde dont le nom seul, murmuré à nos oreilles, nous fait l'effet d'un conte ou d'une chanson. Sassaram, Bénarès, Mirzapur, Kalinger, Kalpi Agra, Bindrabunt, Matra, Delhi, Lahore, Cachemire. On voyait défiler les palais, les tombeaux, les mosquées, les pagodes, les kiosques, les cascades, toutes les féeries de l'antique architecture hindoue. Il vous arrivait comme des parfums de fraisiers et d'abricotiers sauvages, comme des bouffées odoriférantes de branches de cèdre brûlées par les montagnards sur les rampes de Javahir. Et des cimes neigeuses, des sommets vaporeux de cette rêverie, on voyait luire les verts gazons des vallées tibétaines où, disent les poètes, la pluie n'est jamais tombée. On oubliait enfin le lieu où l'on était, l'heure, le théâtre, l'empereur, la ville, l'Europe, et l'on se sentait prêt à ouvrir les ailes et à s'envoler vers les terres bénies d'où venaient ces splendides visions. Au milieu de cette ville de l'Inde en miniature, au premier rang de cette loge, à la droite de celui qui semblait un prince indien, tant autour de lui tout était royal et asiatique, se tenait un homme dont nous n'avons pas encore parlé et qui, par son costume européen, par son habit noir fermé et à la boutonnière duquel était attaché le ruban d'officier de la Légion d'honneur, faisait un singulier contraste avec l'étranger. Pourtant, en examinant soigneusement le costume du Raja, le contraste n'eût point paru si grand, car on eût aperçu, attachée dans un pli de sa robe blanche, une rosette semblable à celle qui décorait la poitrine de l'Européen. Nul ne savait précisément ce qu'étaient ces deux hommes arrivant du pays des rêves et qui, partout, au théâtre ou à la promenade, dans la même loge ou la même voiture, se présentaient sur le pied de l'égalité. Voici les bruits qui couraient à leur endroit. Le Raja des mille et une nuits, cet étranger, dont le cortège ressemblait à celui du roi Salomon venant recevoir la reine de Saba, ce nabab sur lequel étaient braquées les lorgnettes de tous les spectateurs et surtout de toutes les spectatrices, était, comme nous l'avons dit, un homme de 45 à 48 ans, aux yeux d'un bleu d'émail, à la figure loyale, ouverte, franche, communicative, comme celle des Indiens des montagnes, à la tournure facile et dégagée, aux manières élégantes des Indiens de la plaine. On disait de lui que, disgracié par l'empereur Napoléon en 1812, à propos de l'opposition qu'il s'était permis de faire tout haut contre la campagne de Russie, ne voulant point rester inactif au commencement de sa carrière et répugnant à servir comme Moreau ou Jomini dans les rangs des ennemis de la France, il était parti pour l'Inde et avait été offrir ses services à Srujit Singh, qui lui-même, de simple officier, était devenu Raja ou Maharaja, autrement dit roi absolu de Lahore, du Pendjab, de Cachemire et de toute la partie inconnue de l'Himalaya que morne l'Indus et la Setlèche. Présenté au général Allard, qui commandait la cavalerie du Raja, par le général Ventura, qui commandait l'infanterie, le nouvel émigré, que l'on disait maltais et dont on ignorait le nom, avait été bientôt appelé par Rujit Singh au commandement de l'artillerie avec un traitement annuel de 100 000 francs. Mais de là ne lui venait point la fortune immense dont il jouissait. la légende, tout orientale, lui attribuait une autre source. On racontait qu'un jour, le roi de Lahore étant venu passer dans le Pendjab la revue des troupes que commandait le général maltais, celui-ci lui avait fait dresser un trône du haut duquel le roi avait pu suivre les merveilleuses évolutions auxquelles, en moins de 3 ans, le commandant de l'artillerie avait dressé les troupes et le matériel placé sous ses ordres. La revue terminée, Rujit Singh, tout étourdi de ce qu'il venait de voir, avait voulu doubler les appointements de son général d'artillerie. Mais lui, en souriant, avait demandé si, en échange de cette riche augmentation qui peut-être éveillerait la jalousie de ses collègues, il ne serait point égal au Raja de lui accorder un autre don. Rujit Singh avait incliné la tête en signe d'assentiment. Alors le Maltais avait demandé au roi de lui donner, en toute propriété, le sol recouvert par le tapis qui supportait son trône, c'est-à-dire un espace de terrain de 25 pieds carrés à peu près. Le Raja lui avait bien entendu accordé cette demande. Or, le tapis recouvrait une mine de diamants, de sorte que le général de Rujit Singh était devenu si riche, disait-on, qu'il eût pu payer pour son compte l'armée du Raja, qui était de 30 à 35 000 hommes. Depuis 7 ou 8 ans, ajoutait la légende indo-germanique, il était au service du roi de Lahore, lorsqu'un Corse, ancien officier de Napoléon, était arrivé à son tour près de Rujit Singh. Le Raja accueillait avec ardeur tout ce qui venait d'Europe, et il n'avait point attendu que le nouveau venu lui demandât un emploi. Il lui avait fait offrir une place, soit dans l'armée, soit dans l'administration. Mais le nouveau venu était porteur d'une somme assez considérable qui, disait-on, lui avait été donnée à Sainte-Hélène par l'empereur lui-même, et il avait refusé toutes les offres du Raja. Ce nouveau venu, ce Corse, c'était, disait-on encore, l'homme à l'habit noir, au ruban rouge, au visage pâle, aux moustaches noires et épaisses, aux yeux profonds et pénétrants, qui se tenait à la droite du magnifique Indien et qui se faisait remarquer par son front soucieux comme un nuage chargé de foudre et par cette attitude mâle et fière particulière aux hommes dont toute la vie a été une longue lutte pour la même idée. Que venaient faire ces hommes en Europe? Chercher, assurait-on, des ennemis à l'Angleterre, Rujit Singh ne demandant que l'appui d'une puissance européenne pour soulever l'Inde tout entière. Il s'était arrêté à Vienne pour y attendre, disait-il, le fils du Raja, jeune prince de la plus haute espérance, resté convalescent à Alexandrie. En arrivant dans la capitale de l'Autriche, ils avaient remis à M. de Metternich leur lettre de recommandation signée du Maharaja de Lahore, et l'empereur François les avait reçus avec la même cordialité et la même pompe qu'en 1819 il avait déployé pour recevoir Aboul Hassan Khan, ambassadeur de Perse. Muni des présents que le Raja l'avait chargé de déposer aux pieds de l'empereur, et parmi lesquels était son portrait encadré d'une riche bordure en pierre de jade de Chine, des tissus de soie et de cachemire, des colliers de perles et de rubis, le général avait fait à la cour une entrée triomphale, et la porte du palais que l'empereur lui avait désigné pour habitation était assiégée du matin au soir par les courtisans que leurs femmes, leurs sœurs ou leurs filles envoyaient avec recommandation de serrer assez tendrement les mains du nabab pour en faire tomber les diamants, les émeraudes et les saphirs dont elles ruisselaient. Et maintenant, nous espérons que l'on comprendra pourquoi, le côté pittoresque mis à part, la loge de l'envoyé du Maharaja de Lahore était le point de mire de tous les regards.